Chaque samedi, je vous convie à un voyage biographique. Partir grâce au documentaire sur la piste de ces hommes et femmes d'exception qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Quelle fut la vie de celle ou de celui qui fit œuvre? Comment l'œuvre et la vie se nourrissent-elles l'une l'autre? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Toute une vie. Avec Marlène Dietrich, elle fut probablement l'Allemande la plus célèbre du XXe siècle. Cinéaste choyée par Hitler, morte centenaire en 2003, elle filme les Jeux Olympiques de Berlin en 1936 et esthétise le régime nazi. Aujourd'hui, Romain Weber et Nathalie Salle vous proposent Leni Riefenstahl, 1902-2003, c'est toute une vie d'ambiguïté, sans l'ombre d'un regret.
Voilà, donc là c'est le dépôt où sont conservés... Une partie des archives de la zone française d'occupation, et notamment les dossiers de dénazification. Donc, la procédure de dénazification de Riefenstahl, qui s'est étalée, on va dire, entre 1945 et puis 1948.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Pierre Dac,
je vais avoir l'avantage de vous présenter une série d'interviews.
Mars 1945.
Enregistrées au cours d'une récente mission de reportage, effectué au Tyrol, sur le territoire occupé par l'armée française. On trouve actuellement, dans le Tyrol, beaucoup de personnages ayant plus ou moins participé à la vie du Troisième Reich.
Son dossier, c'est plus de 200 feuillets, ça veut dire qu'elle a été particulièrement soumise à la procédure de dénazification.
Je me trouve ce soir chez Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, qui, comme vous le savez, est une grande artiste de cinéma, directrice de production du cinéma allemand. Naturellement, Madame Riefenstahl, vous n'avez jamais appartenu au parti nazi, n'est-ce pas?
Natürlich haben Sie niemals der Partei angehört.
Ich war nie Mitglied der Partei.
Elle n'a jamais été membre du parti nazi.
Bien, ça serait bien entendu d'ailleurs. Je crois d'ailleurs que, étant donné ses rapports avec le docteur Goebbels, Leni Riefenstahl était une résistante de la première heure et probablement une gaulliste qui s'ignore.
Ein Volk, ein Reich, eine Leni. Nathalie Salle, Romain Weber.
Un 1m70, 44 ans, cheveux blonds dorés, yeux gris, nez rectiligne moyen, bouche moyenne, front droit dégagé, teint mat, visage ovale fin, corpulence moyenne. Des éléments d'identification, on va dire.
Une belle femme.
Oui, c'était une belle femme au point que beaucoup de rumeurs dans les années 30 et au-delà, au moment de la procédure de dénazification également, sur sa possible proximité et intimité avec Hitler et avec les autres dignitaires nazis.
Elle correspondait à aucun canon de beauté et grâce à la technique qu'elle maîtrisait parfaitement de la caméra, elle arrivait à arranger certains détails. Par exemple, elle avait un léger strabisme et un nez un peu aquilin qu'elle arrivait à gommer, notamment dans son premier film en tant que réalisatrice, La Lumière Bleue. On ne voit pas du tout ces détails.
Jérôme Bimbenet, pour comprendre cette femme, Leni Riefenstahl, il faut arriver à visualiser un petit peu, à comprendre l'Allemagne du début du XXe. Elle est née en 1902 et particulièrement... La ville de Berlin, à quoi est-ce qu'elle ressemble, la ville de Berlin, au début du XXe?
Au moment où elle naît, c'est le moment où l'Empire allemand existe depuis une trentaine d'années seulement. Donc c'est Guillaume II hein, qui est le Kaiser, l'empereur de l'Allemagne. Et en fait, ce que veut Guillaume II, c'est créer un grand Berlin. En fait, si on veut comprendre d'ailleurs à quoi ressemblait le Berlin de l'époque, il faut regarder M. le Maudit de Fritz Lang. Vous avez exactement ce type de scène. Leni Riefenstahl raconte qu'elle a croisé... Elle aussi, des gens qui peut-être s'attaquaient aux petites filles, ou même parfois aux garçons, qui tuaient. Il y avait beaucoup de délinquance, c'était très dangereux. Mais la ville de Berlin était une ville qui était en pleine expansion et qui était en pleine transformation. Transformation qui sera définitive relativement avec l'arrivée de Hitler au pouvoir, en quelque sorte. L'Allemagne était à ce moment-là, pourrait-on dire, l'une des grandes puissances européennes qui vraiment explosait économiquement de plus en plus. Et la famille de Riefenstahl en a profité puisqu'il y a eu cette classe moyenne. Bon, elle est restée toujours dans la classe moyenne, mais progressivement, les Riefenstahl ont déménagé, changé d'appartement, ils ont trouvé à chaque fois un peu plus grand. On sent qu'il y avait une progression sociale qui était possible et elle en a largement bénéficié.
Mémoire de Leni Riefenstahl, 1987.
On parlait beaucoup à Berlin d'un sadique qui hantait les parages. Il assassinait les enfants en leur fendant le ventre de bas en haut avec son couteau. Nous avions tous très peur de lui. Un soir, je fus chargée d'aller chercher de la bière pour mon père. J'étais en train de descendre les marches de l'escalier de l'immeuble lorsque je m'arrêtai net en apercevant un homme dans l'ombre. Il me tournait le dos et regardait fixement la lucarne de l'escalier. Je me faufilai derrière son dos. Il ne fit pas un mouvement. De retour avec ma canette pleine, je restai d'abord clouée devant la porte de l'immeuble, incapable de me décider à affronter ce danger dans l'escalier. Je finis par me décider à monter. Je me précipitai aussi vite que mes petites jambes me le permettaient. Le type ne me laissa pas aller très loin et me rattrapa par le col du manteau. Il posa ses deux mains tout autour de mon cou en commençant à les resserrer pour m'étrangler. Mais à l'instant, des portes s'ouvrirent, des voix se firent entendre. L'homme me lâcha aussitôt et s'enfuit. Depuis ce jour-là, je ressens toujours un choc lorsque j'entends des pas, tout à coup, dans mon dos.
Donc ça, c'est... J'ai été stupéfaite en regardant ces images à travers son histoire de la transformation de son regard vers l'âge de 5 ans. Elle est jusque-là un très très bel enfant, un très beau bébé, et c'est une belle petite fille, enjouée, qui ressemble à tous les enfants du monde. Et brutalement, il y a une photo qu'elle a gardée d'elle-même, puisqu'elle était dans ses archives. Elle a sans doute 5 ans. Et là, tout d'un coup, le regard est entièrement centré, retourné sur elle-même. Elle ne regarde plus ce qui est en face d'elle, elle se regarde. C'est un regard qui coupe la relation avec un monde extérieur. Elle n'est plus qu'en conversation désormais qu'avec elle-même. Qu'est-ce qui a brisé en elle le rapport à la joie, à la sensualité, à la tendresse, à l'amour?
Lilian Ozas, est-ce qu'on sait ce qu'elle veut faire quand elle est enfant?
Danseuse. Par un pur hasard, en fait, elle tombe sur une répétition de danse et elle est subjuguée. Et elle veut faire danseuse et elle devient danseuse, d'ailleurs.
Elle est subjuguée par quoi?
Par les mouvements, par la grâce, par la discipline, je pense. Et quand elle voit ces jeunes filles en train de s'étirer et ensuite de danser... Elle est obnubilée par ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, elle vient de passer un casting pour un film et elle est refusée. Elle a 15 ans, donc c'est déjà tardif. Hein. Pour une danseuse, généralement, on fait ça tout petit. Et en fait, dans le bâtiment, il y a une école de danse. Et en fait, elle entend la professeure qui bat la mesure. Et donc, elle regarde par un encadrement de la porte. Et elle voit tout ça et elle oublie carrément le casting qu'elle a raté alors que quelques secondes avant, elle est effondrée. Et elle ne vit plus que pour la danse, quoi. Et elle fait tout pour devenir danseuse. Et elle s'inscrit contre la volonté de son père. C'est sa mère qui l'inscrit en cachant ça au père. Parce que il faut surtout pas que sa fille devienne artiste.
Dans l'entre-deux-guerres, Berlin est la vitrine de l'Allemagne moderne. Berlin, c'est la ville de la littérature. La bohème littéraire se déplace de Munich à Berlin à cette époque-là. C'est également la ville du développement du cinéma. Ce qui ne va pas sans intéresser évidemment Leni Riefenstahl, qui elle est une femme de théâtre, de cabaret, de danse hein, à l'origine. Mais le développement du cinéma est tel que tout le personnel artistique de ces arts-là est aspiré par le cinéma muet, qui se développe dans les studios de Babelsberg, à l'ouest de Berlin. Ces studios de Babelsberg, c'est véritablement, du point de vue technique, financier et artistique, le Hollywood de l'époque. Il faut bien voir que le centre comment dire, mondial du cinéma, il est à Berlin, enfin à Babelsberg, à cette époque-là. Et c'est d'ailleurs les nazis qui vont permettre l'essor véritablement de Hollywood à partir de 1933, en poussant à l'exil des réalisateurs, des techniciens et des acteurs allemands.
Cette célébrité, elle l'envisage d'abord dans la danse, et puis oui. Malheureusement pour elle...
Elle se blesse.
À quel âge ?
Elle a 22, je crois, 22, 23 ans, quelque chose comme ça.
Là, c'est un monde qui s'effondre pour Leni Riefenstahl.
Ah oui, parce qu'elle n'a jamais imaginé faire autre chose que de la danse. Elle a travaillé avec Marie Wigman, qui est une grande danseuse allemande de l'époque. Et là, tout à coup, tout s'arrête à cause d'une blessure au genou. Alors après, et ça c'est étonnant, la blessure au genou, en fait, elle n'est pas si grave. C'est-à-dire qu'il ne l'aurait nécessité, on va dire, un an de repos et puis de reprendre les entraînements petit à petit. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas patiente. Elle veut que tout lui arrive tout de suite. Donc, il faut trouver autre chose. Et elle va trouver autre chose. Et ça aussi, c'est encore le hasard qui lui tombe dessus.
C'était incroyable. Cette station de Nollendorfplatz a changé ma vie. J'attendais le train pour aller chez le médecin. Je m'étais blessée au genou et je ne pouvais plus danser. Le train était en retard, mais alors qu'il arrivait, j'ai soudainement vu l'affiche d'un film, La montagne du destin. On y voyait un alpiniste au-dessus d'un gouffre. J'étais tellement fascinée que j'ai manqué le train. J'étais plantée devant. Il y avait écrit « Montagne du destin », cinéma Mozartsaal. C'était tout près. Alors j'ai oublié le médecin et tout le reste et je suis allée au cinéma.
Et puis à l'époque, vous savez, vous payez une séance mais vous pouviez rester dans la salle. Et en fait, elle passe la journée à regarder le film. Et elle se dit, bah, c'est ça que je veux faire. Je veux rencontrer les réalisateurs, je veux tourner dans son prochain film. Donc c'est tout comme ça la vie de Leni Riefenstahl, c'est du culot.
Et elle y parvient ?
Elle arrive à se procurer le numéro et elle appelle Arnold Fanck. Et là, ils se rencontrent à Berlin. Et il est un peu désorienté face à ce personnage qui s'impose, quoi. Et en même temps, elle est jeune, elle est belle, plutôt gracieuse. Donc... il a envie de travailler avec elle. Il se dit, c'est tellement énorme qu'il faut qu'on collabore, quoi. Et c'est comme ça que la collaboration se fait.
Elle arrive à le séduire, en fait.
Oui, il y a une forme de séduction. D'ailleurs, ils ont été un peu amants au tout début. Enfin, c'était pas une grande histoire d'amour, hein, mais voilà. Elle arrive aussi à séduire les hommes avec qui elle travaille.
On est à quelle époque, là, à peu près ?
Le film est sorti en 26. Le tournage a été compliqué. On doit être vers 1923-1924.
Arnold Fanck, c'est le grand spécialiste à l'époque du cinéma de montagne. C'est un film qui raconte en fait l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Diotima, qui, comme toujours dans ces films-là, va être l'objet d'une bagarre entre deux hommes qui tombent amoureux d'elle. Et c'est donc son premier film. Et il aura beaucoup de succès, y compris en France. C'est un film qui se tourne et qui sort à peu près en même temps que Metropolis, de Fritz Lang. Évidemment, la destinée fait qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Metropolis et que tout le monde a oublié la Montagne Sacrée. Mais à l'époque, celui qui marche, c'est la Montagne Sacrée et pas Metropolis. Et dans ce film, elle effectue une danse qu'on appelle la danse de la mer, qui en fait reprend une chorégraphie qu'elle a créée elle-même lorsqu'elle était danseuse. Et c'est, paraît-il, cette séquence-là qui va émoustiller Adolf Hitler quand il va la voir. En fait, il va être fasciné par Leni Riefenstahl suite à la vision de cette séquence.
Journal Westfälischen Volkszeitung, 10 janvier 1927. La montagne sacrée s'élève comme un symbole. Le cinéma allemand doit suivre le chemin escarpé et rocailleux qui monte vers les hauteurs. Va, cinéma allemand, vers la montagne sacrée de ta renaissance et de celle du peuple allemand. Jérôme Bimbenet, cette critique, 6 ans avant l'avènement d'Hitler, ressemble à celle d'un film de propagande.
Oui, mais ce n'est pas un film de propagande. En tout cas, pas au sens où on l'entend. En revanche, et c'est ça qui est intéressant avec le cinéma de montagne, c'est que, et c'est d'où le succès de ce type de film, parce que ce n'est pas le seul, c'est qu'on a vraiment l'impression, symboliquement, que voilà, la montagne, C'est ce qui permet de sortir le peuple des horreurs et du brouillard de la Première Guerre mondiale, des villes, etc. Et donc on laisse entrevoir au peuple un avenir meilleur. Et cet avenir meilleur se trouve là, symbolisé par les cimes et par les montagnes. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de lire une critique qu'on pourra retrouver quelques années plus tard. Ce qui veut dire que le nazisme est arrivé aussi sur un terreau qui était favorable. C'est pas juste une élection. Il y a un terreau qui existe depuis la fin de la Première Guerre mondiale en Allemagne et qui a permis l'ascension justement du nazisme et de Leni Riefenstahl parallèlement.
Et puis Leni Riefenstahl, qui commence donc là sa carrière d'actrice, se dit moi j'aimerais bien être derrière la caméra aussi.
En fait, il y a des problèmes pendant le tournage et Arnold Fanck est obligé de faire des allers-retours à Berlin. Et elle, en fait, avec son impatience légendaire, elle se dit ça avance pas. Donc elle se permet de tourner quelques petites scènes. Et les scènes d'ailleurs sont gardées dans le film. C'est par exemple quand elle est dans un champ de narcisses, ça s'invente pas. Elle est en train de cueillir des fleurs. Ça, c'est des scènes qui ont été dirigées par Leni Riefenstahl elle-même.
Est-ce qu'elle perce dans ce milieu du cinéma en tant qu'actrice?
Le problème, c'est que elle devient l'égérie d'Arnold Fanck et elle tourne souvent sous sa direction. Et elle devient l'incarnation de la femme un peu casse-cou, parce qu'elle apprend du coup le ski, l'escalade, parfois même sans corde de rappel et à main nue. Et elle s'enferme en fait dans cette image. Et du coup, les gens lui font pas forcément confiance et lui proposent pas d'autres rôles.
Elle ne supporte pas d'être seulement actrice ou d'être seulement un jouet perdu au milieu des montagnes, entre les mains d'un metteur en scène, même si elle aime bien les metteurs en scène en question. C'est aussi une femme qui assume complètement sa féminité, parfois assez débridée, pour l'époque. Elle aime bien tout contrôler. Eh bien, un jour, elle va, avec un metteur en scène qui s'appelle Pabst, elle va commencer à mettre en scène des petites séquences, elle va même participer vraiment à la mise en scène d'un film. Et puis, progressivement, elle décide d'écrire une histoire, où elle est évidemment le rôle principal, puisque son idée, c'est à la fois d'être réalisatrice et puis en même temps actrice. On est en 1932 et ce film s'appelle La Lumière Bleue, qui est aussi un film de montagne, mais avec des décors. Et puis, elle décide aussi de faire venir une pellicule spéciale des États-Unis, qu'on appelle la pellicule R, qu'elle n'a pas inventée, mais qu'elle a systématisée dans ce film et qui, progressivement après, deviendra ce qu'on connaît sous le nom de Nuit américaine.
Yunta,
l'héroïne, Yunta, qui est une jeune fille de la montagne, sauvage et innocente, est fascinée par la lumière dans une grotte de cristal que seule Yunta connaît. La grotte est seulement visible quand elle est éclairée par la lumière bleue de la pleine lune, qui perce par un trou. Et alors, tout scintille en bleu. C'est le symbole de l'idéal dont on rêve, mais qu'on n'atteint jamais. C'est ça le thème du film.
Après Leni Riefenstahl, une fois qu'elle a tourné ce film, eh bien, ce film a un certain succès, un peu moins peut-être que les autres, parce que déjà, il y a un scénario, je dirais, assez intellectuel, où on réfléchit beaucoup, et les gens de l'époque ont pas envie de réfléchir, ils veulent vraiment se divertir. Il se trouve à un moment que elle va devenir la cinéaste d'Hitler. Alors, quel est le passage entre une actrice qui devient réalisatrice et une réalisatrice qui devient la réalisatrice officielle, finalement, du Troisième Reich? C'est pas évident comme parcours. Comment se fait-il?
Elle dit dans ses mémoires qu'elle n'avait jamais entendu parler d'Hitler et des nazis avant février 1932. Est-ce que c'est crédible?
Non. Non, c'est très très improbable, dans la mesure où depuis 1929, les nazis occupent le devant de la scène politique. Dès l'été 1929, donc avant la crise, ils ont participé à des meetings communs et à une campagne commune pour un référendum contre les réparations de guerre et le réaménagement des réparations avec la droite. Donc les nazis sont déjà très connus dans les années 1930 et 1931. On parle des nazis partout, non seulement au niveau du Reich, mais aussi au niveau des Länder. Donc non, c'est totalement faux ce qu'elle dit.
En rentrant de ma tournée de présentation du film, je m'aperçus que les murs de Berlin étaient couverts d'affiches annonçant un meeting d'Adolf Hitler au Sportpalast. J'obéis à mon réflexe spontané de m'y rendre, alors qu'il ne m'était jamais arrivé jusque-là d'assister à une réunion politique. Cela se situait, si ma mémoire est bonne, vers la fin février 1932. À l'instant où il prit la parole, je me trouvais submergée de façon ahurissante par une vision quasi-apocalyptique qui ne me quitterait plus. Je me sentais paralysée. Son discours exerçait sur moi une véritable fascination. Je me retrouvais 2 heures plus tard en état de choc, sonnée par ce meeting, au point d'être incapable de faire signe à un taxi. Aucun doute, j'étais contaminée.
Voilà, et elle décide à ce moment-là qu'elle le rencontrera. Donc c'est sa décision, elle lui écrit, et il lui répond, et il se donne rendez-vous. Et on a un premier rendez-vous à la Lelouch, c'est-à-dire c'est une belle plage de la mer Baltique, avec du vent, c'est un truc complètement incroyable.
Jérôme Babonnet, c'est un rendez-vous de deux personnes en fait qui ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre, mais est-ce que pour autant c'est un rendez-vous galant ?
Ah, c'est pas un rendez-vous galant du tout, même si par la suite Leni Riefenstahl, qui va beaucoup arranger sa biographie, expliquera quand même que Hitler lui a plus ou moins fait des propositions. Alors franchement, je n'en crois pas un mot, je crois que c'est elle qui a arrangé cela. Hitler lui aurait d'ailleurs déclaré de toute façon au bout d'un moment « Vous me plaisez, mais je ne peux rien parce que ma seule maîtresse c'est l'Allemagne et de toute façon il n'y aura personne d'autre ». Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'ils se sont réellement dit tous les deux, puisque Hitler n'a jamais raconté et Leni Riefenstahl, c'est en fait le seul témoignage qu'on ait, donc c'est à prendre et à laisser. Mais c'est pas un rendez-vous galant, c'est un rendez-vous d'une espèce de fascination réciproque pour amener à quelque chose, puisque Hitler va lui proposer quasiment tout de suite de faire ses films lorsqu'il arrivera au pouvoir.
Parce qu'à cette époque-là, il n'est pas encore au pouvoir.
Non, il n'est pas encore au pouvoir, on est toujours en 1932, il est en pleine campagne électorale. Et quand elle le quitte, elle va d'ailleurs tourner un autre film qui s'appelle SOS Iceberg, qui est une grande production internationale avec les Américains. Donc elle s'en va pour le Groenland et elle s'occupe pas trop de ce qui va se passer après. Et le 30 janvier 33, donc il devient chancelier du Reich. Et elle est en vacances dans les Alpes. Elle reçoit un coup de téléphone où on lui dit, c'est lui qui est chancelier. Il faut que vous rentriez tout de suite à Berlin parce qu'il va falloir, en gros, le rencontrer et que vous vous mettiez au travail.
Johann Chapoutot, est-ce qu'on peut supposer que Hitler avait des sentiments amoureux pour Leni Riefenstahl?
Il avait une fascination pour l'artiste, lui-même se considérant comme un artiste refoulé, raté, contrarié, mais qui a réinvesti sa sensibilité artistique dans l'action politique, ça il le dit. Donc il a cette fascination pour les artistes. Et cette fascination-là, qui est une fascination narcissique aussi, puisqu'il s'agit de lui, hein, cette fascination-là est indépendante du genre et du sexe. Hein, indépendante également des convictions politiques. Hitler, à plusieurs reprises, a dit à propos d'artistes communistes ou ex-communistes que les artistes ne comprendraient la politique, et ce ne sont pas des critères qui doivent s'appliquer à eux. Donc les convictions politiques, l'origine sociale, le sexe, c'est indifférent, il aime les artistes, voilà. Ensuite, qu'il y ait eu une forme d'attirance pour cette femme, qui de fait est une belle femme, plastiquement tout à fait remarquable, et puis par ailleurs intelligente, à l'aise dans ce monde d'hommes qu'est la production cinématographique, oui c'est certain. Ensuite, que cela aille jusqu'à des sentiments amoureux, franchement, est-ce que cet homme-là était capable de développer des sentiments amoureux? Ça, c'est douteux.
La rencontre avec Hitler, c'est l'alter ego. Il y a eu une véritable reconnaissance harmonique. C'est comme des harmoniques sonores entre ces deux folles ambitions. L'un ayant besoin de grimper au sommet pour être l'objet de tous les regards et d'une folle adoration. Et de trouver une servante, un regard asservi. Je pense que Hitler avait des maîtresses, des femmes, on le sait, etc. Mais là, le fait d'avoir son double féminin, c'est-à-dire, je dirais, quelque chose de monstrueux.
Je vais lentement parce que je suis obligé, vous voyez, c'est du papier très fin qui est fragile, donc on est obligé de manipuler ça avec soin.
Une des questions d'un des enquêteurs, c'est dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance d'Hitler? Donc là, elle va essayer de minorer ses liens avec Hitler. Elle va oublier des rencontres qu'elle a fait avec lui. Elle va nier qu'elle était proche d'Hitler, qu'elle avait un accès direct avec Hitler, alors qu'on sait qu'elle avait un accès direct avec Hitler, donc pour sa défense.
Dites-moi, madame Riefenstahl, je crois que ce bon vieil ami Hitler vous avait offert en 1933 la direction artistique des films allemands. Voulez-vous lui demander, s'il vous plaît?
Die Verwaltung der deutschen Filme, die Ihnen Hitler angeboten hatte, angenommen?
Non, ich habe nicht angenommen, niemals.
Elle a refusé toujours d'accepter la direction du cinéma allemand.
Alors, elle refuse cette place, elle dit qu'elle veut être indépendante artistiquement, qu'elle ne veut pas être soumise à des directives politiques, potentiellement celles du ministre de la Propagande, donc Goebbels.
La première mission qui est confiée à Leni Riefenstahl, c'est une mission de documentaire et de propagande politique. Il s'agit de filmer le congrès de Nuremberg de 1933. Alors le film pâtit de défauts assez réels, mais ça n'empêche pas Hitler d'être convaincu par le travail de documentaire propagandiste de Riefenstahl, et lui sont confiées d'autres réalisations à venir, notamment pour le congrès de 1934 et 1935. Bref, elle devient abonnée à la production cinématographique politique. Et les nazis ont expliqué durant toutes les années 20 que l'Allemagne se trouvait dans un processus de dégénérescence biologique accompagné, c'est le symptôme de la dégénérescence, accompagné d'une décadence intellectuelle, morale, artistique, culturelle. Il s'agit de reconfigurer les formes d'expression artistique et de purger le personnel artistique. Voilà, ça c'est une volonté absolue d'Hitler. Et son arme va être le docteur Goebbels, qui connaît bien ce milieu-là. C'est le seul diplômé de l'université du premier cercle nazi. Il est docteur en littérature de l'université d'Heidelberg. Il a une fascination et un intérêt pour les artistes, notamment pour les arts très contemporains, le cinéma. Alors on peut parler, dans le cas d'Hitler et de Goebbels, d'une passion vraiment pour le cinéma, au titre du divertissement personnel, mais également, évidemment, une passion bien comprise en termes d'intérêt politique. Parce que l'arme cinématographique, les fascistes l'avaient déjà théorisé en Italie, l'arme cinématographique apparaît comme étant décisive dans l'inflexion des intelligences et des opinions allemandes.
Quand elle réalise le triomphe de la volonté sur le congrès du parti nazi en 1934, donc elle échappe complètement au contrôle du ministre de la Propagande, Goebbels?
Oui, absolument. Sur le premier film qu'elle a tourné pour Hitler, donc là on est en 1933, c'est donc le premier film du triptyque, elle a débarqué avec son équipe sur le tournage. Goebbels n'était pas tellement prévenu, il a tout fait pour l'empêcher de tourner correctement. Ça s'est pas très bien passé, le film est pas très réussi. Et en fait, à la fin, Hitler a ordonné à Goebbels de lui fiche la paix et qu'elle aurait tous les pouvoirs pour le suivant. Donc le suivant, c'est le triomphe de la volonté. Et là, tout a été pensé, organisé, mis en scène. En fait, c'est une mise en scène de la mise en scène, puisque déjà Hitler fait de la mise en scène, et la ville de Nuremberg a été transformée en plateau de cinéma.
Moi, je me suis posé la question, est-ce qu'un film nazi est foncièrement mauvais ? Le triomphe de la volonté, techniquement, oui, c'est un bon film.
C'est quoi le but de ce film ?
Il fait de Hitler un dieu vivant. Vous avez Nuremberg qui est présenté comme une nouvelle Jérusalem. C'est la vision du monde, ce que les nazis appelaient la Weltanschauung, qui se déverse sur Nuremberg et qui va dans toute l'Allemagne après. C'est assez troublant, les images. Dans ce film-là, il faut montrer que l'Allemagne est unifiée. Et là, Hitler, pour la première fois, enfin Hitler, Leni Riefenstahl, montre une Allemagne soudée. Donc on est devant une masse informe, on est sur le peuple, voilà, on annihile le corps en fait, il n'y a plus d'individus. Avant, on avait ce qu'on appelait les bandes d'actualité, c'est-à-dire qu'on filmait les choses, caméra fixe, etc. Elle met en place des travelling, elle applique des techniques du cinéma à scénario sur le documentaire, en fait. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et du coup, elle arrive à donner un rythme, une architecture, comme elle disait, au film. Et vous êtes, entre guillemets, transporté. Et on a des témoignages, notamment d'adolescents, qui disent qu'ils sont... En extase devant, en ressortant de la salle, quoi. Ils veulent tous aller dans les jeunesses hitlériennes, quoi. Aujourd'hui, quand on voit les techniques qu'on a dans le cinéma, ça nous, voilà, ça reste un documentaire. Mais à l'époque, c'était tout à fait nouveau et faut recontextualiser la chose. C'est ça le problème du film, c'est que Leni Riefenstahl y a mis tout son talent.
Alors, il y en a une qui me plaît beaucoup. C'est une photo qui a été prise d'elle pendant le tournage du triomphe de la volonté. Oui. Alors Hitler est en tribune, dominateur, croix gammée, il est là, très phallique, hein, tout est dressé et elle est courbée, voilà. Et c'est rare hein, qu'on la voit courbée. Oui. Donc celle-là, elle vaut la peine qu'on la regarde. Et elle est sans doute courbée, pourquoi ? Parce que quand elle est sur un tournage, elle oublie tout. Et que c'est certainement pour des raisons techniques, parce qu'elle est en train de diriger une caméra ou de diriger un objectif, et qu'elle donne des ordres.
Chapoutot, voilà comment commence le triomphe de la volonté avec l'arrivée d'Hitler à Nuremberg. Comment est-ce qu'elle est représentée, cette arrivée?
C'est un peu un prologue dans les nuages, si vous voulez. Hein. Hitler arrive en avion, survole la ville, domine l'Allemagne. Alors, c'est l'image, évidemment, d'un Hitler hyper moderne. Et les images qui sont données de Nuremberg, c'est la vieille ville allemande, la vieille ville médiévale, vieille ville impériale également, lieu de nombreux Reichstag sous l'Empire, avec cette surimpression de l'image et de l'ombre de l'avion sur la ville de Nuremberg. C'est très réussi cinématographiquement et puis symboliquement, ça veut dire qu'il y a une union entre la tradition la plus immémoriale et puis la modernité la plus en pointe.
On voit les troupes allemandes défiler dans Nuremberg, elles sont quand même particulièrement carrées, ces troupes.
Oui, alors ça c'est une des illusions... qui demeure en persistance rétinienne, si vous voulez, des films de Leni Riefenstahl, qui sont devenus un petit peu les images classiques que l'on diffuse désormais à titre documentaire. Ça documente simplement la manière dont les nazis voulaient qu'on les voie, hein, c'est-à-dire organisées, architectoniques, hiératiques, géométriques. Les images que nous a léguées Leni Riefenstahl sont ces images-là, des images nazies produites par les nazis, voulues par les nazis pour qu'on les voie ainsi. Alors que, en réalité, on sait très bien, les travaux d'historiens l'ont bien montré, que la désorganisation, l'improvisation et une forme de chaos présidaient au fonctionnement du régime.
Ce que fait Leni Riefenstahl à travers ses films, et surtout dans Le Triomphe de la Volonté, c'est qu'elle construit l'image du Troisième Reich. Après, sa justification, c'est où est ma faute? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce qu'on m'en veut comme ça? Moi, j'ai juste fait des films. Oui, elle a juste fait des films. Mais quels films? Elle a construit l'image du national-socialisme. Et donc, avec le recul, on pourrait presque dire, finalement, elle est complice de ce régime. Elle a tué personne, c'est certain. Mais, aux yeux du monde entier, les images que nous avons encore aujourd'hui, en 2020, du national-socialisme, ce sont ses films. Et uniquement ses films.
Ce film, Le Triomphe de la Volonté, est-ce qu'on sait où il est projeté? Est-ce qu'on sait combien de spectateurs vont le voir?
Il n'est pas concevable qu'un propriétaire de salle de cinéma refuse cette production. On sait que il y a en Allemagne 5 à 6 000 lieux de diffusion cinématographique à l'époque, enfin de salles de cinéma. Toutes l'ont programmé, toutes. Et en l'occurrence, les statistiques comptent en millions de téléspectateurs, hein, à peu près 5 millions.
Combien de films de propagande est-ce qu'elle a réalisé pour le Troisième Reich?
Alors, il y a un triptyque, donc c'est le triptyque de Nuremberg. autour évidemment du célèbre Triomphe de la Volonté. Donc ça fait trois films, plus Olympia, donc qui est le film sur les Jeux Olympiques, qui est divisé en deux films, donc on peut les compter tous les deux. Et de manière officielle, en tout cas, on en est à cinq, ce qui est assez peu, mais ça compte beaucoup parce que ce sont des films réussis.
Elle épouse l'esthétique nazie, mais est-ce qu'elle épouse véritablement les idées nazies? Et je pense particulièrement à l'antisémitisme.
Je ne crois pas que Leni Riefenstahl, à la base, était plus antisémite que d'autres. À l'époque, en Allemagne ou en France, je vous rappelle que l'antisémitisme est considéré comme une opinion, que donc ce n'est pas un délit. Et bon, elle a beaucoup d'amis qui étaient juifs, alors le milieu du spectacle était un milieu où il y en avait effectivement pas mal, des producteurs. Et lorsqu'elle a tourné La Lumière Bleue, elle a fait appel à un romancier, théoricien du cinéma qui s'appelle Béla Ballas, qui était communiste d'ailleurs, qui est ensuite parti en URSS, et il a travaillé pour elle gratuitement. Et il était au générique en tant que co-réalisateur du film, donc lors de sa sortie en 1932. Le film ressort en 1938 et il a disparu du générique. Et à ce moment-là, Béla Ballas réclame son dû, il souhaite être payé. Et Leni Riefenstahl ne supporte pas. Elle pense qu'il veut en profiter du succès du film, etc. Et donc, ça l'ennuie beaucoup et elle va faire une lettre à Julius Streicher, le directeur du journal Stürmer, qui est un journal très très antisémite.
Je donne procuration à monsieur le Gauleiter Julius Streicher de Nuremberg pour juger la plainte du juif Béla Ballas contre moi.
Alors le problème, heureusement, ne sera pas réglé puisque Ballas est en URSS. S'il avait été en Allemagne, toutes les chances qu'il ait été arrêté et sans doute expédié en camp. Et donc là, avec cette lettre, on pourrait supposer que Leni Riefenstahl est véritablement antisémite. Or, je pense que c'est plutôt un antisémitisme de circonstance. Voilà, je crois que c'est plutôt ça. En fait, elle n'est ni antisémite, ni pas antisémite. Je crois tout simplement qu'elle est rien. Elle est elle. Et elle veut arriver par tous les moyens, y compris, s'il le faut, pourquoi pas, en dénonçant d'anciens amis. Après, est-ce qu'on peut dire d'elle qu'elle était vraiment nazie? Moi, j'ai un petit peu tendance à être partagé là-dessus. C'est-à-dire... Il faut quand même, quelque part, soutenir un tant soit peu le régime nazi pour arriver à faire les films qu'elle a fait. Parce que c'est quand même elle qui construit l'image. Elle voyage un peu partout pour présenter ses films et on la présente partout comme parfois même la Führerine. Voilà, elle est la représentante d'Hitler. Donc pour faire des films comme ça et pour accepter de jouer ce jeu, même si on est très opportuniste, je pense quand même qu'il faut avoir une certaine adhésion aux thèses nazies. Après... Elle est tellement arriviste qu'elle aurait, je pense, été parfaitement capable d'adhérer aussi aux thèses communistes si Staline lui avait donné tous les moyens.
Le congrès du parti nazi du Triomphe de la Volonté, c'est en 1934. Deux ans plus tard, on est en 1936, à Berlin, il y a les Jeux Olympiques. Et c'est elle, je crois, qui est chargée d'en faire le film.
C'est ça. On lui propose de faire le film des Jeux Olympiques. Elle aime beaucoup le sport, c'est une ancienne danseuse, elle fait des courses, de l'athlétisme, etc. dans le privé. Elle faisait aussi du ski, donc le sport, ça l'intéresse. Et là, du coup, y a un sacré challenge, et elle accepte.
Johan Chapoutot, vous avez devant les yeux l'introduction du film Olympia, donc traduit par les dieux du stade.
C'est ce que j'ai appelé un prologue dans les ruines. Un prologue dans les ruines parce que il y a des images de reconstitution d'un peu tout le patrimoine grec. On a des statues d'Athéna, on a des bustes d'Alexandre, et puis on a les ruines de l'Acropole. Et enfin, on a ce fondu enchaîné absolument incroyable et très signifiant qui fait se succéder sur la pellicule par surimpression le discobol de Miron et un athlète en chair et en os, en l'occurrence le décathlète allemand connu à l'époque, Erwin Huber, qui anime la statue et qui lance le disque. Et ça, c'est absolument sidérant parce que on voit toute la logique raciale, biologique, nazie. On passe de la pierre à la chair. Voilà. La pierre antique, c'est le conservatoire de la beauté de la race.
Alors, Leni Riefenstahl n'a rien inventé. Elle a amélioré des techniques. Et je pense pas qu'elle ait inventé quoi que ce soit, contrairement à ce qu'elle a pu dire. Par exemple, elle va prendre des caissons étanches pour pouvoir filmer sous l'eau. Elle va utiliser des mini-catapultes pour suivre les athlètes lors des courses. Elle va équiper pendant les entraînements tous les athlètes, notamment pour le marathon, de caméras portatives au cou pour avoir une vue sur les jambes lourdes, notamment dans la scène du marathon.
Et puis ce film sur les Jeux Olympiques, c'est l'occasion pour elle de mettre en scène une de ses obsessions qui est le corps masculin.
C'est ça, la beauté. Et là, par contre, on est vraiment dans quelque chose de différent par rapport au Triomphe de la Volonté. C'est que là, on est sur l'individu, l'homme, un peu moins la femme, ça l'intéressait moins. Mais on est sur l'homme, et notamment dans le prologue du premier film, parce que le film dure 4 heures, donc il y a deux parties. Et elle a filmé des athlètes quasiment nus, à l'effort, avec le javelot, le poids, etc.
Lilian Ozas, vous allez jusqu'à parler de Homo Riefenstahlis.
Elle a transcendé la figure humaine, et notamment l'homme, le mâle. Et en fait, elle a conforté un canon de beauté qu'on retrouve encore aujourd'hui. Le corps dessiné, presque sculpté, etc. On est loin des sculptures nazies, c'est-à-dire où c'est hypertrophié, quoi. Là, on est sur un corps tout simplement beau. Un canon de beauté qui aujourd'hui est comme une évidence. On le voit partout dans les publicités, dans les films. Et c'est ça que j'appelle l'Homo Riefenstahlis. Il y a un exemple très frappant, c'est le calendrier des dieux du stade, des rugbymen. Déjà, les dieux du stade, c'est le titre français du film des Jeux Olympiques de Leni Riefenstahl. Et quand on voit comment ils sont photographiés, il y a des références plus que troublantes au film de Leni Riefenstahl. On est sur des corps entre guillemets parfaits, mais un peu inatteignable.
Leni Riefenstahl met 2 ans pour sortir le film des Jeux Olympiques. Il sort en 1938, et puis un an après, c'est le début de la guerre.
Il y a quand même eu un certain nombre de polémiques avec elle. Tout n'est pas très clair sur son rôle en Pologne, par exemple. Bon, voilà, elle part en Pologne avec son équipe, avec l'armée allemande, pour tourner, et elle assiste
au tout début de la guerre.
Au tout début de la guerre, dès 39. Oui, oui. Elle se porte volontaire, d'ailleurs, on lui demande rien. Donc quand même, elle se porte volontaire avec son équipe pour aller filmer. Et puis, elle va assister à un massacre, enfin, un parmi d'autres, mais celui-ci en particulier, qui est le massacre de Kąski, en Pologne, où donc plusieurs Polonais sont massacrés par l'armée allemande sous ses yeux. Donc il y a d'ailleurs une photo assez connue qui la montre en train d'assister à cela. Alors elle est évidemment épouvantée, hein, bien sûr. Mais par rapport à ce massacre, là encore, il y a plusieurs versions. Elle dit qu'elle a tenté de s'y opposer, qu'elle comprenait pas pourquoi il fallait tuer ces gens, et qu'elle a évidemment pas réussi. Très déçue, très désappointée, dégoûtée, elle quitte la Pologne, elle rentre chez elle et elle s'occupe uniquement de Tiefland. Ça, c'est sa version. Puis alors, curieusement, il y a d'autres versions, mais qui peuvent être aussi d'ailleurs des versions de mauvaise foi, parce que le problème dans cette histoire, c'est qu'il y a charge et à décharge. Et donc, qui croit, en fait? C'est assez compliqué. Les autres versions, c'est Madame Riefenstahl était là, elle a assisté au massacre, et puis ensuite, son équipe est restée. On a filmé l'entrée des Allemands à Varsovie. Et ça, c'est vrai, d'ailleurs, son équipe est restée. Elle serait partie, mais pas son équipe. Et donc, certains disent qu'en fait, elle y était quand même, et qu'elle a, en réalité, suivi allègrement l'armée allemande pendant plusieurs mois en Pologne, en filmant. Et ces films auraient disparu à l'arrivée des Américains en 1944 chez elle à Kitzbühel. Auraient disparu, auraient brûlé. Alors tout ça, c'est du conditionnel. Il n'y a aucune preuve de rien, en fait. Mais elle a été beaucoup attaquée là-dessus. Et donc, compliqué de prendre position, parce qu'on n'a aucune preuve, ni d'un côté, ni de l'autre. On sait qu'elle y était. On sait qu'elle est revenue à un moment. Voilà, c'est très, très, très complexe, en fait.
De 1940 à 1945... Qu'est-ce que vous avez fait, s'il vous plaît?
De 1940 à 1945, j'ai été malade.
Oui, je comprends, il y avait de quoi, n'est-ce pas, évidemment. Enfin, il y a tout de même des maladies qui vous arrivent comme ça, on ne sait pas pourquoi, n'est-ce pas?
Elle était malade, mais depuis plusieurs années, elle était malade depuis la fin des années 30, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles elle est partie en Autriche, parce qu'elle avait, bon, après quelle est la part de sérieux ou pas, mais normalement, elle avait besoin d'être dans les montagnes, quoi. Et elle avait des maladies, enfin non seulement une maladie nerveuse, mais après une maladie de vessie aussi. Et ça l'a pas mal handicapée dès la fin des années 30. C'est une des raisons pour laquelle elle n'a pas pu finir son film, là, Tiefland. Elle a mis des années à le finir.
Je vous ai moi-même apporté une photographie qu'on m'a donnée. Voilà, c'est la fin de la guerre. Et elle a encore les moyens de filmer. Hitler lui continue de lui donner les moyens de filmer. Et elle décide de faire un film qui s'appelle Tiefland. Et pour que ce tournage ait lieu en Grèce, évidemment, elle avait choisi la Grèce, pays de la beauté antique, qu'elle avait magnifié, exalté dans les Jeux Olympiques. Hein. Et elle décide de filmer des Tziganes et des Roms. Et on lui a donné comme condition uniquement, oui, vous pouvez emprunter ces corps, filmer ces corps, à condition de les ramener dans le camp, ce qui fut fait. Et donc, j'ai une photo de plateau, derrière laquelle, de sa jolie écriture, elle a mis « Jeune danseuse tzigane ».
Marie-Josée Mondzin, comment est-ce qu'elle est représentée, cette jeune
danseuse ? Et c'était une petite fille de 12-13 ans, avec des petites espadrilles. Elle est vêtue avec une robe locale, un petit foulard, une très jolie coiffure. Et elle a une pose, elle est assise sur une pierre au milieu des ruines, dans la lumière grecque. La tête légèrement penchée, bref, tout n'est que grâce et beauté chez cette petite danseuse tzigane. Donc elle a fait un cliché qui l'a enchantée. Cet enfant est passé dans les fours crématoires d'Auschwitz après avoir servi d'objet à la fascination et à la cruauté. Son regard était de consommation, il fallait qu'elle broute du corps, elle a brouté. Elle a brouté les corps des athlètes, elle a brouté le corps des Noubas, elle a brouté le corps des Tziganes, elle a brouté le corps d'Hitler. Elle s'est enchantée elle-même d'être regardée par tous ces corps comme un objet frigide, froid, glacial, inatteignable et donc divinisé. Alors, qu'on appelle ça être une artiste, oui, ça me gêne.
Est-ce que Leni Riefenstahl, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était au courant de l'existence des camps d'extermination ?
Alors, elle a toujours déclaré que non. Lorsque les Américains l'interrogent en 44-45, quand ils vont la chercher chez elle, ils vont beaucoup l'interroger sur les camps, on lui montre des photos, etc. Et elle dit qu'elle n'est pas au courant. Et les Américains la croient, d'ailleurs. Et ils vont la relâcher. Après, elle a toujours déclaré qu'elle n'avait jamais entendu parler d'Auschwitz et que la première fois qu'elle en avait entendu parler, c'était par les Américains en 45. L'interrogation, c'est est-ce que quand on s'appelle Leni Riefenstahl et que l'on fréquente les hautes sphères du nazisme et qu'on est proche de Adolf Hitler, on peut ne pas connaître les camps. Ce qui est sûr, et là-dessus, je pense qu'on peut la croire, c'est qu'elle n'a quasiment jamais parlé politique avec Hitler. Et donc, si elle ne parle jamais politique avec Hitler, sans doute peut-elle ne pas savoir. Et elle, j'irai même plus loin, elle est tellement dans son monde, tellement dans son égoïsme forcené, dans son nombrilisme forcené, que quelque part, ça ne m'étonnerait pas qu'elle n'en ait pas entendu parler.
Alors ça, c'est un article d'un journal qui s'appelle Nuit et Jour, qui date du 2 mai 1946. Et c'est un reportage photo sur une double page. Il y a une dizaine de photos où on voit Riefenstahl accompagné d'Hitler et de Goebbels. Et puis après, les autres photos de ce document, c'est des photos qui ont été prises en avril 46, entre le 12 et le 15 avril, c'est-à-dire au moment où les forces françaises d'occupation en Autriche l'expulsent vers l'Allemagne. Donc on voit une photo du chalet de Kitzbühel où elle était réfugiée, on voit des photos d'elle avec son mari, avec sa mère, on voit une photo d'elle donc complètement mise en scène, hein, où elle est assise sur ses valises à l'arrière d'un camion. Là, elle est en train de partir de Kitzbühel pour rejoindre Lindau sur le lac de Constance et ensuite être en résidence surveillée en Pays de Bade.
Le photographe l'a saisi un moment en fait très important de la vie de Leni Riefenstahl, puisque c'est la charnière, c'est le tournant de sa vie. Elle passe de la gloire à la déchéance.
C'est à la fois une mise en scène de ça, effectivement. Elle passe de la gloire à la déchéance. Elle est très fermée, elle ne regarde pas l'objectif. C'était une période pour elle où alors elle a a été très harcelée par les services français, c'est-à-dire qu'ils l'ont pas laissée tranquille. Il y a eu des interrogatoires quasiment tous les deux mois, en fait, par les différents services français, que ce soit le deuxième bureau, le service de l'information, les services de la sûreté en Autriche, puis après en Allemagne, la confiscation de ses biens, et elle va être internée quasiment de force par les Français. C'est pas très clair si elle joue de ça pour échapper à la résidence surveillée, pour être en hôpital plutôt qu'en prison, ou si c'est réel. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même assez réel. Elle était réellement malade. C'est vraiment une période de c'est les pires années de sa vie là, qu'elle est en train de vivre.
Sébastien Chauffour, elle écope d'une sanction extrêmement légère.
Là où on voit, dans un sens, l'échec de cette procédure de dénazification, c'est que les officiers français n'ont pas su rassembler les éléments à charge, c'est-à-dire prouver que Tiefland avait été financé par le parti nazi, montrer l'impact de ses films en termes de propagande, montrer également sa proximité avec Hitler. Et assez bizarrement, quand ils vont avoir des éléments, par exemple, il va y avoir des témoignages d'une partie de son équipe, de son comptable qui va dire que Tiefland a été en partie payé par le parti nazi, ces éléments-là vont pas être utilisés contre elle de manière assez aberrante.
En 1945, elle a 43 ans. Mm-hmm. Elle meurt à quel âge, Leni Riefenstahl?
Mais écoutez, elle meurt à 101 ans.
Bah, qu'est-ce qu'elle en fait ces 60 années?
Eh bien, elle en fait du Leni Riefenstahl, c'est-à-dire elle va se relever et puis de nouveau tomber et se relever et tomber et passer son temps en fait comme ça à essayer. Ça va être très compliqué pour elle puisque elle veut refaire du cinéma. Elle ne pourra pas refaire du cinéma. Elle a des tas de projets de films, y compris avec des acteurs connus. Je pense à Anna Magnani par exemple, qui était d'accord. Parce que dans le monde du spectacle en tant que tel, elle a toujours une très bonne réputation. C'est le monde hors spectacle qui ne veut pas la voir. Et lorsque certains financiers se rendent compte que... Parce qu'elle emploie des ruses, elle s'appelle Hélène Jacob. Ce qui est d'ailleurs son nom de femme mariée, jusqu'à son divorce, puis même après, elle le gardera un peu. Hélène Jacob, ça passe. Quand les financiers découvrent que derrière, en fait, c'est Leni Riefenstahl, ça ne passe plus. Et peu à peu, elle va se mettre à la photo. Voilà, ça va se faire doucement pendant les années 50, pendant les années 60. Et elle a un projet de film à un moment qui s'appelle Cargaison Noire, qui est un projet sur la traite des Noirs en Afrique, parce qu'elle a lu des journaux sur le sujet et que ça l'a émue, visiblement, et qu'elle a eu donc envie de faire un film. Lui aussi ne se fera pas. Et c'est là que, en Afrique, donc elle est au Kenya, elle va tomber un jour sur les Maasai. Et elle va être littéralement fascinée par les Maasai. Et donc elle les photographie autant qu'elle peut. Et au même moment, elle voit sur plusieurs revues une grande photo avec deux catcheurs Nuba. Et la photo l'impressionne beaucoup, la fascine beaucoup. Et elle se dit à ce moment-là, je veux aller voir les Nuba. Et ce sera, à partir du milieu des années 50, une véritable obsession. Et elle va le faire. Parce que généralement, elle réussit ce qu'elle veut.
Alors par exemple, prenez ce livre-là qui est « Les Noubas de Kao ».
C'est le deuxième album qu'elle a consacré aux Noubas. On est un peu dans la continuité quand même de son travail sur le film des Jeux Olympiques. Alors son argument, c'était que la beauté dans la culture Nouba, c'est très important. Elle disait que par exemple, les personnes âgées et puis les personnes considérées laides étaient cachées. On sait que c'est faux, les ethnologues le disent, mais voilà, elle est vraiment subjuguée par la beauté, ces décors au soleil, donc qui sont huilés en plus. Voilà, par exemple sur celle-ci, on voit cet homme nu qui s'enduit. Et Susan Sontag disait que elle reproduisait le travail qu'elle avait fait sous le Troisième Reich, mais que en même temps cette fascination pour la beauté n'était pas raciste, mais qu'on était devant quand même une beauté fasciste. Et c'est vrai que cette nuance, je pense que c'est tout à fait le travail de Leni Riefenstahl. Elle n'est pas raciste.
Today is the end of the Republic.
Alors dans ces années 70, donc il y a Mick Jagger, il y a aussi Andy Warhol, ensuite il y a George Lucas qui la défendent, qui la prennent comme source d'inspiration. Est-ce que dans les années 70, il n'y a pas une sorte de réhabilitation de Leni Riefenstahl 30 ans après la fin de la guerre?
Il y a une forme de réhabilitation. Bon, elle aura tout fait pour. Quand même, hein, ça vient pas de rien. Forme de réhabilitation grâce à son travail de photographe. Et puis à la redécouverte aussi de ses films. Il faut quand même rappeler que Le Triomphe de la Volonté, par exemple, a été projeté à la Cinémathèque jusqu'en 1960 sans interruption. Et que les films olympiques, Les Dieux du Stade en particulier, ont été montrés à la Cinémathèque jusqu'au milieu des années 70, sans arrêt. Donc ces films-là existent quand même, et le film sur les Jeux Olympiques ne lui a d'ailleurs jamais été reproché. Et il y a effectivement une réhabilitation à laquelle elle a largement contribué. Vous parliez de Mick Jagger, Andy Warhol, il y a le Japon aussi qui devient, le pays devient un grand fan de Leni Riefenstahl, puisqu'on se rend compte que l'esthétique des mangas est assez proche par certains côtés de certaines séquences du Triomphe de la Volonté, qu'on retrouve même chez Walt Disney dans Le Roi Lion par exemple. Il y a une espèce de résurgence à ce moment-là où on tend un petit peu à oublier quel a été son rôle auprès de Hitler, où on oublie un peu que tous ces films magnifiques sont quand même des films de propagande nazie, et où elle se met en scène parce que médiatiquement elle est très présente et elle se met particulièrement en scène aussi. Donc c'est une réhabilitation qu'elle est allée chercher, je dirais, à la force du poignet quand même, hein. Elle est allée au charbon jusqu'au bout, quoi.
C'est quelqu'un qui vit dans le fantasme. Elle est la dimension fantasmatique du nazisme. Elle a fini d'ailleurs à 72 ans, elle est allée sous les eaux, elle a passé ses degrés de plongeuse en falsifiant son livret de naissance, de façon à ce qu'on l'autorise à plonger. 72 ans, on n'a pas le droit de commencer. Mais elle était formidable. Elle était immortelle. Elle est morte à 101 ans, dans son sommeil, sans doute parfaite. Et elle a fini ses photos chez les algues et les poissons, chez les animaux à sang-froid, dont elle faisait partie.
C'est affreux. J'ai souffert pendant 50 ans. Et ça ne s'arrêtera pas avant que je meure. Je dois vivre avec. Ça jette une ombre si terrible sur ma vie que la mort sera un soulagement.
Leni Riefenstahl, j'ai l'impression que les gens attendent que vous admettiez votre culpabilité.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire? De quoi suis-je coupable? Je regrette d'avoir fait le film sur le congrès du parti en 1934, Le Triomphe de la Volonté. Mais je suis désolée. Non, je ne peux pas regretter d'avoir été vivante à cette époque-là. Je n'ai jamais rien dit ou écrit d'antisémite. Je n'ai jamais été antisémite et je n'ai jamais été membre du parti nazi. Alors de quoi suis-je coupable? Dites-moi. Je n'ai pas lancé de bombe atomique. Je n'ai dénoncé personne. Alors où est ma faute?
C'était Ein Volk, Ein Reich, Ein Leni. Avec Marie-Josée Monzin, philosophe, Lilian Ozas, romancier, Jérôme Bimbenet et Johan Chapoutot, historien, et Sébastien Chauffour, conservateur aux archives diplomatiques du Quai d'Orsay. Avec également des extraits du film Le pouvoir des images de Ray Muller, de La lumière bleue, du Triomphe de la volonté et des dieux du stade de Leni Riefenstahl, et des mémoires de Leni Riefenstahl traduites par Laurent Dispo. Lecture, Anne Stephens. Prise de son, Yvan Turc, Arthur Dumont et Philippe Mercher. Mixage, Benjamin Vignal. Merci aux archives du ministère des Affaires étrangères, à Julien Guélin et à la Contemporaine, bibliothèque et centre d'archives de l'Hôtel des Invalides. Toute une vie, coordination Christine Bernard, attachée de production Daphné Abgral et Sylvia Favre. Une émission de Nathalie Salle et Romain Weber.
Vous trouverez bibliographie, podcast, réécoute et bonus sur la page de Toute une vie sur franceculture.fr. Une page préparée et enrichie par Sylvia Favre et Quentin Vaganet.